Chapitre 9. Rêve d'évasion. Madame Poitou habitait une maison cossue dans une jolie bourgade de la région parisienne. Son mari avait été négociant en alcool et on pouvait encore lire au fronton de sa demeure, en lettres oranges dessinées avec le plus grand soin, « Vins et spiritueux ». Madame Poitou était veuve. Elle était extrêmement joviale et sans avoir besoin pour cela de faire appel aux liqueurs que son mari avait lancées sur le marché de la commune. Elle était liante, d'humeur égale et communicative. Elle connaissait bien le pays et sa région, car elle y était née, et ce furent ses relations de clocher qui l'entraînèrent un jour au-delà de ses horizons habituels. Deux impressaris, ce pluriel me semble toujours ridicule, deux impressaris, je le répète pour le plaisir, s'en était fait une amie. Ils étaient voisins de campagne. Elle avait accepté leur amitié sans arrière-pensée aucune, car la nature l'avait dotée d'une charmante innocence. Mais leurs idées, à eux, étaient guidées par l'intérêt. C'était un vieux couple d'homosexuels. Ils s'adoraient et se haïssaient à la fois, chacun portant en lui le paradis et l'enfer de l'autre. Ils étaient très réputés en tant que tourneurs, et bien que leur fief fût le Proche-Orient, ils n'avaient aucune acquaintance avec les derviches semblablement nommés. Ils avaient promené au cours de leur jeunesse tous les grands acteurs dramatiques et avaient puisé abondamment dans les distributions du théâtre français qui jouissait alors d'une magnifique renommée, car le cinéma n'avait pas encore causé de tort à la scène, opposant aux vedettes de celle-ci les stars de ses écrans. Ils avaient, de saison en saison, amassé un joli magot, en se donnant du mal, il est vrai. Ne minimisons pas leur mérite. Ils abordaient maintenant l'ultime versant de leur carrière. Ils ne voulaient pas désarmer, mais, comme ils étaient très économes et que le septième art les concurrençait en effet, il leur fallait trouver des expédients afin de serrer leur budget. Ils avaient donc proposé à Madame Poitou, leur aimable voisine, de faire un beau voyage. Il ne s'agissait pour elle, en retour, que de rendre quelques services, habiller les acteurs et repasser les costumes en arrivant à l'étape. C'était peu de choses, ce n'était rien. Elle verrait l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Turquie. Hélas, on ne pouvait pousser jusqu'en Israël. Si on allait en pays arabe, l'État d'Israël était interdit et vice-versa. On avait partout des complications diplomatiques, des problèmes de visa. Cette histoire se situe en 1954. C'était justement Israël qui intéressait en premier lieu Madame Poitou, car elle était bonne chrétienne. Le sphinx et les pyramides, l'art hittite, parlaient moins à son cœur que le jardin des Oliviers. Mais à la fin d'un dîner fort gai, dont elle avait assumé les frais avec générosité, Madame Poitou, enthousiasmée par les souvenirs de gloire que ses amis avaient évoqués au cours de leurs agapes, s'était définitivement laissée convaincre. « Top là !» avait-elle dit, comme elle l'avait entendu dire par son mari. « Je pars, l'affaire est conclue. » Elle n'était pas femme à revenir sur sa parole. Et Madame Poitou se mit à rêver d'évasion. Une troupe un peu disparate fut constituée, où figuraient pourtant quelques éléments propres à lui assurer une certaine solidité. On donna à un acteur chevronné la direction des répétitions. Très vite, il apparut qu'il était plus intéressé par l'importance du cachet que préoccupé du sens de ses responsabilités. Mais les rôles principaux étant tenus par des gens d'expérience, un courant de solidarité s'établit entre eux qui compensa la défection de celui qui, officiellement, aurait dû leur tenir lieu de chef. On travailla dans la bonne humeur et on eut du cœur à l'ouvrage. Trois jeunes femmes se partageaient les rôles féminins. L'une arrivait en tête d'affiche, mais les autres n'en conçurent nulle aigreur. Elles coururent toutes les trois, les couturiers ensemble, pour trouver au plus juste prix des robes élégantes afin d'être de jolies ambassadrices de la France. Si les répétitions se déroulaient parfois dans une atmosphère d'inquiétude, le metteur en scène s'obstinant à être toujours absent, le voyage, lui, se préparait dans l'allégresse. À l'époque, le Proche-Orient, pour beaucoup d'acteurs, était la grande banlieue privilégiée de Paris. Le public y parlait très bien le français. Il était amateur de théâtre, il aimait la France. Le répertoire qui avait été prévu et adopté était varié et substantiel. Pendant que se déroulait le travail préliminaire, Madame Poitou n'eut aucun contact avec la troupe et c'était bien naturel, personne n'ayant encore besoin d'elle. Elle se contenta d'attendre dans l'euphorie le départ pour Marseille, l'embarquement pour l'Égypte, puis le baptême de l'air qui l'emporterait vers un Orient plus lointain encore. Elle était heureuse comme une fiancée qui se promet de l'hymen des révélations exaltantes. 8 jours avant le départ, elle entra en rapport avec le régisseur. Des montagnes de fripes avaient été assemblées dans la salle des répétitions, jouxtant l'appartement parisien de ses amis les grands tourneurs. Le régisseur lui signifia qu'elle avait été convoquée pour mettre en ordre toutes ses hardes avec lui et pour organiser les bagages. Elle fit donc avec beaucoup de soin les panières, ces immenses malles d'osier que connaissent bien les habilleuses et qui leur donnent des limbagos, entassant les pourpoints, les bottes, les tournures, les vertugadins, les robes du soir, les smokings, les perruques et quantité d'autres éléments indispensables à la bonne marche des spectacles. Elle fit cela avec un sens de l'organisation assez remarquable pour une novice, procédant par pièces comme le lui conseilla le régisseur. Liste en main, celui-ci, d'ailleurs, l'aida efficacement. Il lui passa les vêtements et leurs accessoires. Pendant que méthodiquement elle pliait et empilait, Madame Poitou entendait. « Ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà, c'est au complet. » Elle fit preuve, au long de plusieurs journées, non seulement d'un grand sens de l'ordre, mais aussi d'une exemplaire endurance. Hélas, elle n'apprit rien du vocabulaire du costume. Après ces rangements, elle se sentit moulue. Cependant, comme elle prenait le train pour Marseille dans les jours qui suivaient, il était urgent qu'elle fît ses propres bagages. Là, personne ne lui indiquant plus ce dont elle aurait besoin et qu'il ne fallait pas oublier, elle se perdit un peu et ajouta à ses valises, quand celles-ci furent bouclées, 1000 petits paquets imprévus. Une gare, c'est une gare. Elle n'attendait pas au départ de Paris de surprise majeure. Elle fut simplement énervée parce qu'il lui fallut faire connaissance sur le quai avec la troupe dont elle allait partager l'existence. Elle trouva les acteurs sympathiques, mais elle eut le sentiment qu'ils étaient survoltés et qu'à leur contact, la ville entraînait dans un surprenant et inhabituel tourbillon. Elle se promettait beaucoup de l'embarquement à Marseille. Pour elle, c'était entièrement nouveau. Ce fut pourtant une sorte de léger cauchemar. Elle n'eut conscience de rien, tant il lui fallut avoir l'œil sur tous les petits paquets secondaires dont elle s'était chargée. Quand on fut à bord, la Méditerranée était vraiment houleuse. On fit savoir aux passagers qu'il valait mieux ne pas s'aventurer sur les ponts. Elle s'enfourna donc, avec les autres voyageurs, dans le ventre du navire. Mais pendant qu'elle se faisait dévorer par lui, elle eut l'impression angoissante d'avoir, elle, des crabes plein l'estomac. Et tout au long de la traversée, la mer, hélas, ne se calma pas. À l'Opéra du Caire, où elle arriva sans avoir rien vu de la ville que sa chambre d'hôtel et quelques coquetiers, la première représentation devait lui réserver des surprises. La mise en loge se passa bien. « Ça, plus ça, plus ça, plus ça », dit encore liste en main le régisseur, en livrant à Madame Poitou les vêtements qui habilleraient les acteurs. Lorsque ceux-ci arrivèrent à leur tour, la distribution des loges ayant été faite de façon scrupuleusement hiérarchisée, la soirée leur sembla se présenter sous de bons auspices. Chacun prit possession avec confiance de son air de vie provisoire. Quand le régisseur appela les 25 minutes, signal qui indique que le temps est venu de se mettre en costume, Madame Poitou fut assaillie de toutes parts. Elle s'était fort dépensée pendant l'après-midi pour donner des coups de fer après sa mise en loge, ses amis les impressaris lui ayant bien recommandé la perfection afin que les interprètes fussent dignes du grand théâtre et d'un public particulièrement exigeant. Elle était donc un peu lasse. Elle fut surprise de sentir la troupe extrêmement nerveuse. « Ah, ces gens de théâtre, qu'elles excitaient » pensait-elle. « À quoi sert de se mettre ainsi dans tous ces états ?» Elle était lasse, mais parfaitement paisible, jusqu'au moment où des loges surgirent partout des voix. « Madame Poitou, venez m'aider à mettre ma tournure. Madame Poitou, je ne peux pas accrocher mon vertugadin. Madame Poitou, où sont les fraises ? » « Qu'est-ce que c'est que ça, la tournure ? Qu'est-ce que c'est que ça, le vertugadin ? Des fraises ? Quelles fraises ? Ils sont vraiment fous, ces acteurs. Où veulent-ils que je leur trouve des fraises ?» La confusion s'empara de son esprit, qu'on dissipa par quelques éclats de rire. « Elle est idiote, cette habilleuse, » dit l'ingénue. « Elle n'a jamais entendu parler de rien. Elle a dû faire une carrière au boulevard et sans curiosité aucune. » Après ce baptême du feu, Madame Poitou, qui de plus n'avait pas dîné, passa une nuit horriblement perturbée. Elle s'était promis un voyage d'agrément. Il ne s'agissait plus maintenant pour elle que d'un déplacement assez compliqué où les responsabilités pleuvaient sans qu'elle pût un instant s'y soustraire pour s'abandonner aux joies du dépaysement. Le lendemain, on changeait de spectacle. « Qu'est-ce que ça me réserve ?» se demanda-t-elle. Et en effet, elle eut une surprise qui la glaça. On jouait à Molière, et elle s'entendit appeler pour épingler une petite toix. Elle, pauvre fille de la campagne, resta bouche ouverte et scandalisée. « Ah non, monsieur » finit-elle par dire. « Je suis ici pour faire un beau voyage, non pas pour qu'on se moque de moi. » « Je ne vois pas en quoi m'épingler ce truc-là peut compromettre votre beau voyage, » dit le grand premier rôle, aussi goguenard qu'agacé. Et il remuait du bout des doigts une sorte de court tablier pyramidal fait de rubans juxtaposés qui surplombait sa culotte. « Ah, c'est ça que je dois épingler ?» dit Madame Poitou, un peu revenue à elle. « Alors dites-le. » « Mais je vous le dis, épinglez-moi ma petite oie, elle tourne. » « Bon, bon, » dit Madame Poitou, renonçant à la discussion. « Je vais vous mettre une épingle à nourrice. » Mais elle pensait aux oies de son village et ne voyait pas du tout le rapport. Le métier qu'elle avait provisoirement adopté l'obligeait à se poser des questions. « Il faudra que je demande ça à mes amis. Ils sauront me répondre, » pensa-t-elle. Cependant, elle constata très vite que ses amis voisins de campagne était débordée d'occupation et qu'elle était réduite à une forme de solitude au milieu de laquelle les exigences des acteurs et leurs éternelles nervosités la harcelaient. Un soir, la grande jeune première s'accrocha à elle comme à une bouée. « Je ne veux pas y aller !» disait-elle, et ses yeux lançaient des éclairs fous. « Où ça ? Voir Néguib !» L'Égypte venait de changer de chef. Au général Néguib, le colonel Nasser avait succédé. Cela s'était fait au début du séjour de la troupe. Dans les rues, de petits contingents de soldats passaient bien en ordre et apparemment très pacifiques. Mais on avait appris entre deux verres du Cid qu'il venait d'y avoir un coup d'État. En France, à travers la presse, les parents croyaient leurs enfants en pleine révolution. En réalité, rien n'était changé au Caire. Les acteurs visitaient la ville en parfaite tranquillité. C'était un peu comme la bataille de Waterloo vue par le Fabrice de Stendhal. « Qu'est-ce que vous m'apprenez ?» interrogea Madame Poitou interdite. « Néguib me demande dans sa loge. Pourquoi moi toute seule ? J'ai la frousse, je ne veux pas y aller. » La jeune première s'imaginait emportée le soir même par des hommes enturbanés. On l'asseyait sur un palanquin et elle gagnait le harem du chef limogé qui avait besoin qu'on le consolât. On la faisait étendre sur des coussins de soie. On la bourrait de confiture de rose, de rahat loukoum. Elle devenait ronde comme une pêche et perdait toute énergie. Elle ne pouvait plus réagir et se sauver. Elle dormait toute la journée, bercée par le bruit lénifiant des fontaines. L'imprésario le plus viril du couple intervint avec autorité. « Vous êtes convoqué par M. Néguib. On va venir vous chercher. Vous ne pouvez pas faire faux bond. De quoi aurions-nous l'air ?» On vint chercher la jeune première. Ce fut un contrôleur de salle qui se chargea de la conduire jusqu'à l'avant-scène de M. Néguib. Elle s'attendait à quelque chose de plus oriental ou de plus militaire. Elle se pendit pourtant de nouveau au cou de Madame Poitou, qui lui dit avec un accent héroïque. « Ne vous inquiétez pas, je vous suivrai. » Madame Poitou, contaminée par les fantasmes, se voyait déjà repassant des kilomètres de mousseline de soie au cœur d'un harem, loin, très loin de sa campagne natale, dans une oasis secrète au centre du désert d'Égypte. Elle y était merveilleusement dépaysée. Enfin ! La troupe fut fort intriguée pendant un instant de courte durée, car 10 minutes plus tard, la jeune première revint tout à fait détendue et cria à la cantonade. « Le directeur du théâtre s'appelle aussi M. Néguib. Il nous attend pour prendre un verre chez lui demain en fin de matinée. Sa femme est tout à fait charmante. » On venait d'avoir une forte émotion. Madame Poitou regretta que s'arrêtât si vite le suspense. Elle était venue là pour se changer les idées, pour s'évader. Et que faisait-elle depuis son départ ? Elle repassait. Elle lavait des chemises, des bas et des chaussettes. Elle épingle. Elle déjeunait et dînait à des heures impossibles, dans des restaurants au menu desquels elle ne comprenait rien. Dieu merci, les petites de la troupe étaient rigolotes. Et les acteurs aussi. Ils riaient tous beaucoup. Ils étaient jeunes, et les moins jeunes riaient autant que les autres. Ils se mirent à appeler en cachette leur imprésari les châtelaines du bilan. Ce surnom naquit au Liban dans une petite auberge. Madame Poitou avait vu cette fois un peu de pays. On avait fait un voyage en car et traversé des forêts de cèdres. À l'étape de midi, ses deux amis s'étaient isolés à une table, avaient pris leur carnet de comptes et commençaient à aligner des chiffres. Un acteur lança alors sournoisement à ses camarades. « Regardez les châtelaines du bilan !» Et tout le monde avait éclaté de rire. Madame Poitou se dit qu'on se moquait des mœurs particulières de ses deux compagnons. Elle faisait un léger rapprochement entre bilan et Liban, mais comme elle n'avait pas lu Pierre Benoît, il manqua la moitié du sel au goût de sa côtelette orientale. Elle n'était pas de nature exigeante. Elle se contenta donc de sa demi-ration. Elle s'était régalée de paysages. C'était déjà beaucoup pour elle. Elle entrait dans la vie intime de la troupe qui était devenue un peu sa nichée. Elle aimait particulièrement les trois jeunes femmes, l'ingénue, la tragédienne, la jeune première. Elles étaient toujours contentes, et Madame Poitou, qui se prenait à trouver cette vie de saltimbanque tout à fait fatigante, était émerveillée de leur égalité d'humeur. Un soir où elle était découragée, où elle avait fait beaucoup de repassages, recousu d'innombrables boutons, elle les interrogea. Le théâtre était ce jour-là un peu petit. Elles étaient toutes les trois serrées dans une même loge. « Ce n'est pas drôle ce métier que vous faites, » leur dit-elle. « On se couche à des heures impossibles, on se lève tôt pour repartir, on ne voit rien ou presque rien des pays où on passe, on attrape froid, on attrape chaud, il faut sans cesse s'habiller, se déshabiller. Comment pouvez-vous aimer ça ? Moi, vraiment, je ne trouve pas ça drôle du tout. » « Oh, » dit la jeune première, « ce n'est pas ça qui est triste, c'est l'amour. Tenez, voyez-vous par exemple, avec cette petite cocotte-là, » elle avait montré l'ingénue, « elle est partie parce que son mari est un sale cavaleur. » « Oui, » dit l'intéressé dont le visage devint sinistre. « Il va même demander le divorce. »« Moi, » enchaîna la tragédienne, « je suis avec un vieux monsieur. Je n'ai personne pour le remplacer. Mais comme il est marié, il faudra bien que je le plaque un jour. »« Et moi, » renchérit la jeune première, « je meurs de passion pour un père de famille, un type de mon âge, qui me tient la carotte au bout du nez depuis au moins 3 ans. Je pleure toutes les nuits avant de m'endormir. J'en suis malade de le savoir avec sa femme. J'en crève. » Madame Poitou n'en revenait pas. « Belle comme vous êtes, gentille et tout, » dit-elle. « Vous devriez avoir des hommes à vos pieds qui baisent la terre où vous passez. » Madame Poitou s'était permis précédemment d'avoir quelques opinions sur la vie privée des artistes. Elle l'avait supposée aussi comblée que dissolue. L'amour avec M. Poitou s'était borné pour elle à fort peu de choses. Ça lui avait suffi d'ailleurs, dans la mesure où rien ne l'avait enthousiasmée. Mais quand elle avait entendu parler du théâtre par ses voisins, elle s'était imaginé le champagne. En premier lieu, le champagne, à cause des vins et spiritueux qui présidaient à sa vie. Et puis, des cabinets particuliers, des fanfreluches et des folies. Et voilà que ces trois belles grandes filles, qu'elle aurait bien voulu avoir faites, avec des seins superbes, des ventres de déesses, se morfondaient, l'une avec un cavaleur, l'autre avec un vieillard en pantoufles, la dernière avec un type peu sympathique, qui continuait à engrosser sa femme. Madame Poitou perdait pied dans cet océan d'absurdité. Elle partait à la dérive. « Oui, c'est difficile pour nous de faire notre vie, » dit la tragédienne. « C'est une question d'horaire, peut-être. Et puis, les hommes aiment bobonne au foyer. Alors, moi j'ai manqué plusieurs beaux mariages. Madame Poitou, j'avais le virus, rien à faire contre. D'ailleurs, je ne sais même pas cuire un œuf au plat, tellement ça m'assomme. Moi, je cuisine très bien, dit la jeune première. Mais la vie est comme ça pour nous toutes. Ou bien les filles font semblant de s'amuser et s'envoient en l'air inconsidérément, et elles deviennent très vite des paumées qui se désespèrent, ou bien c'est un compromis raté, comme ce dont on vous parle, ou bien ce n'est rien. Il y a très peu de comédiennes qui réussissent leur vie intime. C'est difficile pour tout le monde, ajouta-t-elle avec philosophie, mais beaucoup plus pour nous. Madame Poitou était vraiment compatissante. Pourtant, elle imaginait mal M. Poitou, négociant sérieux, responsable, la laissant se trimballer sans lui sur des routes de pays inconnus, acceptant qu'elle rentre à 4 heures du matin et se glisse dans le lit conjugal après une soirée brillante et mondaine où elle aurait montré son décolleté et ses épaules. Il fallait aussi se mettre à la place de tous ces messieurs Poitou-là, faits de la même pâte que son monsieur Poitou à elle. Elle-même n'en pouvait plus, Madame Poitou, de cette vie désordonnée. Elle souffrait d'insomnie. Elle n'arrivait plus à sortir de son lit le matin. « Je me demande comment je ferais si je devais faire mon ménage », pensait-elle en regardant d'un œil noyé de fatigue et de paresse les murs minables de sa chambre d'hôtel. Elle devint si languissante qu'elle se mit à oublier les ablutions. Elle n'en était pas fanatique de nature, mais ce fut comme la messe. Elle les négligea complètement. Dans leur loge, les trois jeunes femmes commencèrent à élargir les ailes de leur joli nez. Un soir où elles étaient toutes les trois réunies, la jeune première lança. « J'ai l'impression que je sens franchement mauvais. Vous ne trouvez pas, Madame Poitou, qu'on sent mauvais dans ces pays-là? Il fait trop chaud. C'est bien simple, je prends 3 douches par jour et rien n'y fait. Non mais renifle-moi, » dit-elle à sa voisine. Et subitement, elle fit un saut en arrière. « Mais toi aussi, tu sens mauvais !» Toutes les trois se couvrirent d'eau de Cologne. Quand Madame Poitou fut sortie, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle comprenne ?» demanda la tragédienne. « Remettre ça demain, » répondit la jeune première. Le lendemain, puis les jours suivants, on rejoua la même comédie avec quelques variantes. Madame Poitou commença au fil des soirées à être légèrement incommodée par le parfum de ses eaux de Cologne mélangées. Mais elle prit conscience aussi de la légitimité d'un sacrifice de 5 minutes de toilette journalière devenu nécessaire à cause des étrangetés du climat. Passer son temps de loisir dans l'eau, comme prétendaient le faire ces petites demoiselles, lui semblait une exorbitante exagération d'actrice. Mais puisqu'on sentait si mauvais dans ces pays-là, il fallait bien consentir à un petit effort. Quand l'ambiance de la loge fut redevenue tolérable, ses instructrices lui offrirent un flacon de discret jasmin. Elle l'avait mérité. Ce fut sa récompense. La tournée continuait. On voyait des hôtels délabrés à peine finis d'être construits, des mosquées, des terrains vagues, des ruines, des souks, des musées, des ambassades, des réceptions ennuyeuses à périr où on grignotait debout alors qu'on était recrue de fatigue et affamé. On voyait également des chameaux, des ânes, des chats, des gandouras, des turbans, des tchadors, des voiles. On entendait les muezzines appeler à la prière du haut des minarets. Mais en dépit de ces éléments d'exotisme, et malgré son heureuse nature, Madame Poitou était au bord du désespoir. « Bien sûr, pensait-elle, ça fera des souvenirs, mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Le présent n'est pas plaisant à toutes les heures. » On gagna la Turquie, et elle eut un baptême de l'air extrêmement inquiétant. Elle s'était promis un voyage sur un avion de grande ligne, ce fut une compagnie aérienne locale qui se chargea de son premier vol. Quand, sur le terrain, elle fut en face du triste monstre qui allait l'emporter, elle eut l'impression que c'était un coucou qui avait fait les Dardanelles. Il était recousu de partout. Elle trembla secrètement et, malgré la gaieté habituelle de la troupe, personne ne semblait rassuré, ce qui aggrava son tourment. On arriva pourtant à bon port, et le soir même, c'est un cinéma qui accueillit la grande série de représentations. Pour une grande série, c'était un fort petit édifice. Madame Poitou connut quelques minutes de profond découragement. Elle ne savait même pas où pendre ses costumes. Et pas une planche à repasser, pas un fer n'était là pour favoriser ses efforts qui étaient devenus ceux d'une professionnelle. On alerta le directeur qui proféra dans un français extrêmement pur. D'habitude, c'est le médecin voisin qui reçoit les costumes et permet qu'on les repasse. Il conduisit donc Madame Poitou consentante chez le médecin voisin. 1 heure avant le spectacle, hommes et femmes se retrouvèrent parqués dans un hall de béton exigu, sinistre et glacé. « Dis donc, » intervint la tragédienne, « quand on s'habille, vous sortez, les garçons. »« Pour aller où ?»« Sur le plateau, vous attendrez tranquillement qu'on ait fini. J'ai horreur de la promiscuité. À vous, ça ne vous gêne pas, mais à nous autres, les filles, ça nous embête. » On vit arriver sur ces entrefaites Madame Poitou. Et son expression habituellement accorte était manifestement égarée. « Si vous saviez ce qui m'est arrivé, » dit-elle avant qu'on ne l'interrogeât. « Ah, je m'en souviendrai du Proche-Orient. Les châtelaines pourront m'en vanter les mérites. » Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Crièrent en chœur les acteurs et les actrices, excités par la curiosité. J'ai vu tout l'après-midi soigner des blénorragies. J'ai entendu tout l'après-midi des bonshommes gueuler. Comment ça? Demanda la troupe en joie. Eh bien, on m'a installé une planche à repasser chez un toubib. C'est un urologue. Il faisait des lavages ou je ne sais quoi dans son cabinet et à ses clients, et je les voyais sortir en se tenant le bas-ventre et en criant « Ouï, ouï, ouï !» Qu'est-ce que ça veut dire « Ouï, ouï, ouï » en turc ? Demanda l'ingénue, qui adoptait un air volontairement idiot. « Ça veut dire « Maman, si j'avais su !» répondit un garçon. « Vous comprenez, les filles, pourquoi l'ambassade on vous a recommandé de ne pas sortir seule entre femmes ?» enchaîna un jeune premier qui avait envie de se caser. « Vous voyez ce qu'on peut risquer !»« Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ?» continuait Madame Poitou, absorbée par son idée. « Ce n'est pas ça que j'étais venue chercher. Ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. » La tragédienne lui sauta au cou. « Ça fait des souvenirs inoubliables, ça, Madame Poitou. Vous verrez, inoubliables !» Les souvenirs de tournée sont en effet inoubliables. Les conditions de vie pittoresques qui mettent en présence des gens qui ne se sont pas choisis et doivent cohabiter de très près, en même temps qu'ils travaillent ensemble, créent des surprises et des conflagrations. Parfois, des amours naissent. J'ai peu parlé de l'amour au théâtre. C'est à la ville comme à la scène qui nous y conduira. Au risque de paraître désabusé, après avoir employé l'expression « désert parisien », je parlerai du désert du théâtre. Les rapports humains y sont en effet prudents et circonspects. Comme les animaux le font au sein de la nature, chacun y défend son périmètre d'existence. Le théâtre est un lieu où s'exerce de façon exiguë l'imagination, la sensibilité, l'instinct, un lieu de réflexion, mais pas du tout un port d'attache pour la vie affective. Il y a eu, il y a, et il y aura encore des couples d'acteurs metteurs en scène, et actrices associées, et j'imagine que c'est un destin enviable que de vivre ce métier en compagnons unis. Mais c'est rare. On a des passions au théâtre, au sein du théâtre. En règle générale, on y voit peu d'attachement durable. Il arrive également qu'on polarise sur le théâtre tout l'amour dont on est capable, qu'on soit exclusivement amoureux de lui. Mais pour avoir une vie personnelle, il faut s'en évader. C'est ce que j'ai déjà essayé de dire. C'est ce que va illustrer l'amour de Benjamin. Benjamin aura l'avantage d'être un homme. Une femme, dans son cas, serait amenée à faire des coupes sévères dans sa vie professionnelle. Lui, comme beaucoup de ses congénères, demandera probablement à Marie de se consacrer à lui, et même, peut-être, il la cachera.